Bienvenue dans l'équipe podcast.
Le podcast qui répond à toutes vos questions équines dans la joie et la bonne humeur. Bonjour, bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, ça va nous parler de quoi, Sophie?
On va parler de l'organisation sociale. Alors, c'est quoi l'organisation sociale en premier?
C'est comment les chevaux s'organisent socialement, c'est ça, hein?
Merci beaucoup, Lydia, pour l'information. Pour être un tout petit peu plus précis, c'est comment les chevaux, donc ils organisent, bon, jusque-là ça devrait aller, mais ils organisent leur vie entre eux, et on va parler ici d'interaction au quotidien et de comment fonctionnent les chevaux en société, dans leur société à eux, évidemment.
Oui, parce que dans la nôtre, ça ne doit pas être évident, hein.
Là, voilà, de nouveau, on va parler de chevaux sauvages, de chevaux dans l'idéal, comment ils vivent idéalement en liberté. On ne parle pas des chevaux qu'on a chez nous, au pré ou au paddock ou au box, hein, parce que c'est pas la même chose du coup. Commençons par les notions de hiérarchie. Alors, il y a plusieurs notions de hiérarchie à connaître. Il y a en premier, on peut parler du chef. Le chef, c'est celui qui va prendre les décisions, comme un directeur chez nous, qui veut être le chef et qui est désigné comme chef. Voilà, ça n'existe pas chez les chevaux. Nous avons encore ensuite le dominant. Le dominant, c'est celui qui a la priorité sur les ressources. C'est celui qui va pouvoir manger en premier. Voilà, ce que j'aime faire. Boire en premier également. Et tout ce qui est accès aux ressources, c'est lui qui va être prioritaire. Ensuite, nous avons le leader. Le leader, c'est celui qui a une position qui est involontaire. Il n'est pas unique, on s'impose pas leader, donc pas comme le chef, on le devient. Il ne décide pas de ce que font les autres, c'est les autres qui le suivent de lui-même. Et ça, on en a chez les chevaux.
Ça, c'est un peu comme celui qui donne l'exemple, quoi, en fait. C'est ça.
Exactement. C'est comme celui qui donne l'exemple et on a envie de faire pareil que lui parce qu'il fait bien les choses. C'est un petit peu comme nous, les humains, quand on idolâtre quelqu'un. On a tellement envie de faire la même chose que la personne. C'est un leader. À chaque fois qu'il y a une interaction entre deux chevaux, il y a la mise en place d'une hiérarchie. Il y aura toujours un dominant, un dominé. À chaque fois qu'il y a deux chevaux qui interagissent ensemble, c'est le cas. Un cheval qui est dominant une fois, il va pas le rester à vie. C'est pas parce qu'il est dominant dans un groupe qu'il va l'être dans un autre groupe. Ça, c'est valable pour nos chevaux en pension aussi. Il n'y a pas de chevaux naturellement dominants ou de chevaux naturellement dominés. Ça n'existe pas. Autre petit point, les poulains entre eux, ils n'ont pas de hiérarchie. C'est des bébés, ils n'ont pas de hiérarchie entre eux, ils ont du jeu, ils ont plein de choses, mais pas ça. Mais ça, on vous expliquera un petit peu plus tard tout ça correctement. Il y a deux types de hiérarchie dont on va parler. Il y a la hiérarchie linéaire, c'est A qui va dominer B, qui va dominer C, qui va donc dominer D. C'est mieux dans l'ordre des lettres. Ça, par exemple, c'est le cas chez les loups. Ça va être vraiment linéaire. Et on va avoir la hiérarchie en réseau. Ça va être A qui peut dominer B, mais qui va aussi dominer C, mais C peut dominer A, etc., etc. C'est vraiment, ça fonctionne que deux par deux. Ça fonctionne pas l'un après l'autre. C'est vraiment à chaque fois qu'il y a deux individus qui se rencontrent, c'est un type de hiérarchie entre eux. Il va toujours y avoir un dominé, un dominant, et ça va changer avec d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. C'est là où on comprend que la hiérarchie des chevaux est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire.
Donc oui, c'est ça. Donc ce que tu veux dire, c'est que c'est pas parce qu'un cheval est dominant avec un autre qu'il sera toujours dominant avec d'autres chevaux.
Exactement. Donc faut qu'on arrête nos croyances aussi dans les pensions quand on change de pension et qu'on dit sur nos annonces recherche de pension. Cheval extrêmement dominé, pas de problème en troupeau. Et ben peut-être que dans ce troupeau-là, il sera dominant.
Moi, je vais vous parler des différentes structures sociales. Donc je vous rappelle, les chevaux vivent donc sur un domaine vital. Donc le domaine vital, c'est un endroit où il a accès à toutes les ressources dont il a besoin. Donc il y a le harem, le mâle célibataire et les groupes de mâles. Le harem, en fait, c'est constitué de un ou deux étalons. On a pu remarquer parfois trois, mais c'est assez rare. En tout cas, c'est un ou deux. Et une ou quatre juments. Quand il y a deux étalons, il n'y en a qu'un seul qui reproduit. L'autre, il est dominé en fait par l'autre étalon. Pour les juments, donc il y en a de une à quatre, pas plus. Les juments n'ont pas de lien familial avec l'étalon. Je pense que c'est une des seules structures où ça se passe comme ça. Donc il n'y a vraiment pas de risque de consanguinité quand ils sont avec les chevaux sauvages. La jument, elle a le poulain de l'année, le poulain de 1 an, le poulain de 2 ans, et après le poulain quitte le harem. En ce qui concerne la reproduction, en fait, l'étalon propose et c'est la jument qui accepte. C'est la jument qui choisit son étalon. Et parfois, la jument, elle va rester dans le harem uniquement parce qu'elle est super pote avec une autre jument et pas spécialement pour l'étalon. Et le lien est très très fort avec les juments, et c'est vraiment ça qui maintient la survie du harem.
Est-ce qu'on peut dire que les juments sont extrêmement féministes?
Bah oui, quand même. Hein.
C'est elles qui décident.
C'est elle qui décide.
C'est les reines de ce monde.
Girl power. Alors après, donc, on a le mâle célibataire, donc lui, il est tout seul, et en fait, il est toujours un peu en satellite d'un harem. Il n'est pas avec eux, mais il n'est pas loin. Et alors, on a le groupe de mâles célibataires, donc ça, c'est les étalons qui ont entre 2 et 7 ans, donc une fois qu'ils quittent le harem. 7 ans, c'est plus ou moins l'âge à laquelle ils constituent eux-mêmes un harem. Ou alors, il y a aussi des vieux étalons qui ont perdu leur harem. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les juments et l'étalon. Il y a une hiérarchie entre les juments entre elles, mais pas entre l'étalon et les juments. L'étalon, il est là pour reproduire. Il n'est pas là du tout pour les protéger. Il n'est pas là pour les protéger.
Je veux dire que le mythe de Spirit, il est complètement faux. Je suis
Oui, c'est
extrêmement
ça, tout
déçue.
à fait. Oui, c'est pas lui qui va aller se battre. Ça va peut-être même être le premier à fuir. Hein. Alors, pour les liens entre les individus, il y a le lien d'amitié qui est vraiment très très fort chez certains chevaux, et c'est toujours deux par deux. Ce qu'ils font aussi entre eux, c'est qu'ils font du grooming. Il y a le lien mère-poulain qui est vraiment super important. Lui, il se crée à la naissance. Quand le poulain vient téter aux mamelles, il y a des phéromones qui sont diffusées, c'est comme ça que le poulain reconnaît sa mère. Et la mère aussi reconnaît son poulain comme ça aussi, parce qu'elle vient le sentir quand lui vient près d'elle. Et plus le lien est fort quand ils sont petits, plus le poulain aura la possibilité de s'éloigner, et puis parce qu'il saura où il doit revenir. Le lien est vraiment super important. La jument, d'ailleurs, elle peut repousser aussi de 24 à 48 heures la mitzvah pour être sûre qu'elle soit dans de bonnes conditions. Et généralement, c'est vers la fin de journée qu'elle pouline. Et c'est au bout de 4 heures que le poulain il reconnaît l'odeur de sa mère.
Maintenant que Lydia nous a parlé un petit peu plus des juments et des poulains, moi je vais quand même vous parler un petit peu des mâles, même s'ils sont là que pour reproduire, ils sont quand même importants dans l'espèce. Le groupe de mâles, le jeune entier qui va quitter le harem, il va rejoindre donc un groupe de mâles célibataires qui sert vraiment à mettre en place la hiérarchie entre eux. Donc les entiers, avant de créer leur harem, ils ont une hiérarchie qui se met en place entre eux. Si un entier n'est pas encore assez fort, hop, il quitte le groupe de mâles célibataires et devient solitaire pour continuer de grandir, devenir un petit peu plus fort, et ensuite revenir dans ce groupe de mâles célibataires et remettre en place la hiérarchie. Les entiers, ils vont très peu se combattre entre eux, vraiment. Ils préfèrent éviter le conflit, ils vont faire des parades, comme on voit souvent les chevaux, même chez nous, au bord de la clôture, à parader. Ils vont faire des parades, mais comme la hiérarchie est déjà mise en place entre eux, ils savent déjà ce qui va se passer. Donc ça s'intimide un petit peu et ensuite ils s'éloignent l'un de l'autre et le conflit est terminé. Il y a vraiment pas beaucoup plus. C'est très rare que ça aille réellement au combat. En plus, ils vont essayer de pas se croiser en marquant leur passage. C'est le fait que justement les entiers ils vont recouvrir les trottins quand ils vont passer. C'est pas marquer le territoire parce que les chevaux n'ont pas de territoire. C'est vraiment marquer le passage du harem ou de l'entier et dire attention, je suis là, je suis passé par là, éloignez-vous qu'on se croise pas. Il y a un comportement qu'on peut beaucoup retrouver chez l'entier avec les juments, ça s'appelle le herding. Alors, excusez-moi pour l'accent anglais nul, hein, on va le dire à la française, ce sera le herding, ce sera pas autre chose. Ça va être le fait d'avoir un entier qui va mener une jument par l'arrière. C'est hyper facile à reconnaître, on a un entier qui va avoir la tête très basse, limite au ras du sol, les oreilles plaquées, et qui va vraiment pousser derrière la jument, et la jument va devoir bouger, et voilà, il va pouvoir dépasser les juments comme ça. C'est le seul moment où il va réellement déplacer les juments. Sinon, il n'y a pas. Sinon, il n'y a vraiment que la reproduction entre eux.
Par contre, les juments, elles ne connaissent que le harem. Elles naissent dans le harem et puis elles quittent le harem pour aller dans un autre. Et c'est la jument qui choisit le harem qui choisit l'étalon, et donc qui va choisir ah, ce harem-là, il me plaît bien, donc je vais là-bas. Une fois qu'elle a choisi le harem, elle va y rester toute sa vie et elle donnera des poulains jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, ça c'est vraiment la vie de jument.
Par contre, on n'oublie pas que les liens sociaux dans les chevaux, les liens familiaux entre les chevaux sont hyper importants. Et si par exemple il y a deux harems qui vont se croiser et qu'il y a des juments, il y a la mère d'une autre jument dans l'autre harem, elles peuvent tout à fait aller se rencontrer et se dire bonjour.
Oui, les liens restent toute leur vie, hein. Elles se connaissent et les liens sont très très forts entre les juments. Ça, c'est vrai.
Contrairement à l'entier, donc la jument va vraiment rester en harem toute sa vie, l'entier, lui, va passer par au moins deux étapes différentes, comme on vous l'a dit. Ça va être au début le harem quand il est poulain, ensuite le mâle célibataire, et potentiellement, il va être aussi solitaire. Mais il passe toujours au moins par deux phases, donc le harem et le groupe de mâles célibataires, et optionnellement la troisième étape d'être solitaire. La conséquence de ce phénomène chez les entiers qui vont connaître plusieurs étapes dans leur organisation sociale, c'est que lors de leur déménagement, ils vont s'adapter beaucoup plus facilement à leur nouvel environnement et aux différents types d'organisation sociale pour nous faut qu'on a chez nous. C'est valable pour Londres et les étalons. Mais pas les juments. Les juments sont beaucoup moins doués pour s'adapter à deux organisations sociales du fait qu'elles ont des liens beaucoup plus forts que les mâles.
Alors maintenant, on va parler un petit peu du jeu. Alors, le jeu, ben, c'est réservé aux poulains et aux jeunes chevaux. Et c'est comme ça qu'ils apprennent, en fait. C'est un apprentissage pour eux. Le cheval adulte, lui, il ne joue pas. En fait, voilà, il reproduit des comportements qu'il connaît déjà. Tandis que le poulain, il reproduit, il imite des comportements pour les apprendre. Et là, en fait, on dit qu'il joue. Voilà, en gros, pour l'organisation sociale. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'organisation sociale, on vous conseille le livre Cheval qui es-tu de Michel-Antoine Leblanc et Marie-France Buissou, qui est vraiment très intéressant. Le livre, il est assez gros et il y a plein, 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 plein d'infos intéressantes. C'est vraiment une mine d'informations. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais donc voilà, ça c'est. On vous en parlera d'ailleurs, on vous fera un épisode sur les bouquins si vous voulez. Donc voilà, mais celui-là est vraiment intéressant aussi pour l'organisation sociale. Et voilà, Sophie, le prochain épisode, il va nous parler de quoi?
Le prochain épisode, si je ne dis pas de bêtises, il va parler de la communication. Alors, c'est toujours en lien avec l'organisation sociale. Ça, on a plusieurs épisodes qui sont en lien. De toute façon, c'est le but, c'est de connaître comment les chevaux fonctionnent complètement. Et fatalement, ça reste un cheval, donc tout a un lien. Ça me paraît plutôt logique, vu comme ça.
Eh bien, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode et on vous souhaite une belle journée.
Belle journée à tous!